Écho d'économie, Georges Kamoudjova.
Toujours très heureux d'être avec vous pour notre tour de l'économie congolaise et de ses enjeux. Nous, c'est surtout Berry Luchaka qui vous donnera les infos.
L'or et le pétrole peuvent diviser, Georges. Les sociétés civiles de l'Ituri et de Beni Butembo jouent déjà la prévention. Elles clôturent d'ailleurs ce soir des discussions à Bunia sur les enjeux de ces deux richesses. C'est un reportage de Jean-Paul Bassil à suivre en seconde partie de cette émission. Mais plus au sud, nous évoquerons ce deal entre creuseurs de Poitou et une entreprise minière. Nous appellerons François-Xavier Mibé depuis Kalemie dans deux minutes.
Juste avant de retrouver Jocelyne Moussaou-Pondé pour l'économie en dehors de la RDC et l'entretien de ce soir avec Bob Bondé, patron de Diablon, ce laboratoire installé depuis 5 jours à Kinshasa pour laver le diamant. C'est l'invité à suivre dans 10 minutes. Commençons à Kananga. Après le maïs, c'est au tour du ciment de prendre l'ascenseur.
Le sac de 50 kilos se négocie à $45, alors qu'il y a 2 semaines, il était aux environs de $30. Conséquence, plusieurs chantiers ouverts par les particuliers sont suspendus. Les opérateurs économiques confirment que la situation va perdurer suite à l'irrégularité de trains de la SNCC pouvant tracter le ciment qui traîne au port de Ilibo.
Et au nord équateur, les exploitants forestiers sont dans la tourmente.
Le bois ne se vend plus bien sur le marché international suite à la crise. Plusieurs conséquences sont à signaler, notamment la fermeture du chantier Siforco de Yakata. Au moins 850 travailleurs, parmi lesquels 5 expatriés, ont été licenciés. La Sikobois à Lissala a mis un bon nombre de ses travailleurs en congé technique et en attendant l'amélioration de la situation. Quant à Safo, entendue par la Safrikas Forêt, elle a été contrainte par le service de l'environnement d'arrêter ses activités dans la Mongala pour non-renouvellement de son permis de coupe d'arbres.
Et la grogne gagne les agents de la société PMU Paris Mutuel Urbain. Nous sommes en Bujimaï.
Ils revendiquent la paye de leurs arriérés de plus de 40 mois. Et au cours d'une rencontre d'hier, ces agents ont pris la décision d'exercer une autre pression sur l'employeur après l'ultimatum de 3 jours accordé à l'entreprise. Ils annoncent que l'ultimatum de cette fois-ci prendra au total 48 heures.
Et l'actionnaire majoritaire de Moto Gold Mine de l'entrée de Redback Mining dans le projet.
Electrum Strategic Holdings s'oppose aux $430 millions de Redback Mining, estimant que les opérations des Motogold Mines sont sous-évaluées. Ce montant permettrait de réaliser un projet de production d'or dans l'Ituri dans 3 ans. Mais l'entrée de l'Australien Redback peut dissoudre les parts des autres partenaires. Dans les différentes négociations, l'État congolais, qui est aussi partenaire des Motogold, s'oppose à réduire ses parts de 30%. Les différentes parties doivent conclure les discussions dans 1 mois.
Merci beaucoup Berry Luchaka pour ces quelques informations économiques à travers le pays.
La nouvelle économique au bout du fil.
Direction Nord Katanga où l'on retrouve François-Xavier Mibé en direct de Kalemie. On va voir s'il est là. On lui dit bonsoir.
Ah, bonsoir, Georges Kamoudjova.
Alors, l'entreprise CAIR, Central Africa Resources, passée hier, dans les derniers jours, un accord avec les exploitants artisanaux de Mpueto. Nous sommes là à 450 km au sud-est de Kalemie. François-Xavier Mibé, peut-on avoir une idée sur les termes de cet accord?
Oui, écoutez, Georges Kamoudjova, les termes propres de l'accord stipulent que l'entreprise CAIR, Central Africa Resources, accepte de concéder une superficie de 320 mètres carrés de périmètre minier à environ 300 exploitants artisanaux du cuivre pour une durée de 6 mois renouvelables. Les activités d'exploitation artisanale doivent se dérouler dans les carrières des Kasama, à 45 km sur la route du nord de Poitou. Le commissaire de district du Haut-Katanga, Madame Marthe Chiweng, s'est fortement impliquée dans les négociations. Et disons ensuite que 2 carrières d'exploitation artisanale du cuivre viennent d'être choisies par les créateurs eux-mêmes dans les groupements de Kasama.
Et que peuvent espérer aujourd'hui les populations de Poitou dans la reprise des activités d'exploitation artisanale de cuivre une fois relancées à Kasama?
beaucoup de choses vraiment, Giorgio Kamujova, beaucoup de choses donc attendent à être réalisées, à en croire ce que disent les membres de la coopérative des exploitants miniers du cuivre, plutôt étant une zone post-conflit qu'on ait une précarité extrême. L'exploitation artisanale va permettre de résorber les chômages qui frappent la localité, la réalisation de projets de reconstruction de la petite ville de Pueto et ensuite de la reprise des activités commerciales dans cette localité.
Et qu'est-ce que l'entreprise CAR elle-même doit-elle attendre des exploitants artisanaux de cuivre?
Disons tout de suite, Georges Kamujova, c'est le directeur de l'entreprise CAR, Julia Seyo, de ce dit catégorique, bien que c'est dans une portion de terre de sa concession à l'exploitation artisanale aux communautés locales. Julia Seyo tient au respect de la réglementation minière en vigueur à RDC dans la commercialisation des produits issus de l'exploitation artisanale. Les exploitants artisanaux ne doivent pas se livrer à la fraude. Ils doivent payer les taxes de l'État. Avec cette rigueur, Georges Kamujova, l'entreprise de CAR espère se conformer aux exigences de l'État afin de canaliser les recettes dans les trésors publics. Ainsi, le directeur de CAR a transmis le projet du protocole d'accord au siège de l'entreprise en Australie avant la cérémonie de signature officielle qui doit intervenir dans un proche avenir. Et terminons ici, Georges Kamujova, en disant que les activités d'exploitation artisanale du cuivre doivent nécessairement démarrer avant le juillet prochain.
Donc, dans deux semaines. Merci François-Xavier Mibé pour ses précisions depuis Kalemi. Bonne soirée à tous ceux qui suivent Radio Kapi, en particulier à Kamkolobondo sur 105 FM.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Jocelyne Moussaoupondé.
Jocelyne, l'économie angolaise connaîtra une croissance à deux chiffres en 2010.
L'économie croîtra de 6,2% en 2009, a déclaré le ministre angolais des Finances, mais avec une baisse de 6,1% dans le secteur pétrolier et une croissance de 15,4% dans les secteurs non pétroliers. Il estime que la récession a été évitée et que 2010 sera l'année du retour à une croissance à deux chiffres.
Et les Européens veulent mieux préparer leurs banques à des futures crises.
Les ministres européens des Finances réunis à Bruxelles se sont mis d'accord aujourd'hui pour renforcer les bilans des banques afin d'éviter de nouvelles crises en les incitant à constituer des provisions spéciales pour anticiper les pertes en période de récession. Ce système existe déjà en Espagne et permet d'avoir une réserve que l'on peut utiliser quand la conjoncture est mauvaise, ce qui contribue à atténuer les effets liés aux fluctuations du cycle économique.
Et regard sur les métaux de base à présent.
Les prix des métaux de base continuent à baisser. Le cuivre, qui s'est négocié à 5 100 $ la tonne la semaine dernière, est aujourd'hui en dessous de 4 900 $. L'étain perd 700 $ par rapport à la semaine dernière et se vend à moins de 14 300 $ la tonne.
Et le baril de pétrole semble suivre aussi le même mouvement que les métaux. Les cours de l'or noir chutent. Il est passé sous les 60 $ ce matin à New York. Merci Jocelyne pour ces quelques infos en Afrique et dans le monde. Écho d'économie sur Radio Capi. Tout de suite, sa seconde partie.
Écho reportage.
L'éco-reportage nous invite en Ituri où l'or et le pétrole s'affichent comme les deux richesses aux grands enjeux, deux matières au carrefour des intérêts économiques entre l'Ituri et le Grand Nord du Kivu, et les sociétés civiles des deux zones tentent de prévenir. Elles clôturent ce soir d'ailleurs des discussions de deux jours à Bunia sous les auspices du réseau Akina Amani, une plateforme d'ONG locale de défense des droits de l'homme. Des détails avec Jean-Paul Basila.
Les deux parties se sont choisies en seul intervenant. Il s'agit de M. l'abbé Alfred Boudjou, il est membre de la société civile de l'Ituri. Ce dernier nous a dit pourquoi ces deux matières premières constituent l'une des préoccupations majeures sur l'avenir économique du Grand Nord Kivu et de l'Ituri.
Il n'y a pas que du pétrole pour l'Ituri, c'est-à-dire les blocs 1 et 2 découverts jusqu'à ce jour couvrent l'Ituri, mais il y a encore d'autres blocs qui vont jusqu'au lac Édouard, qui est justement du côté du Grand Nord et même le Nord Kivu en général, disons. Donc c'est pourquoi c'est une problématique commune pour nous. Par rapport à l'or qui est exploité en Ituri, mais l'or qui est trafiqué par des hommes d'affaires, principalement aussi de Beni Boutembo.
À l'occasion, les deux parties voudraient aussi clarifier la question relative à la circulation sur Internet de certaines cartes économiques dont les données ne sont pas du tout approuvées à Ituri. Il y a une carte qui identifie la ville de Beni au Nord Kivu comme prochain site où sera raffiné le pétrole brut qui sera extrait dans les eaux congolaises du lac Albert. Il y a une autre carte qui identifie les postes administratifs de Bela dans le territoire de Mambasa comme une entité économique du territoire de Beni. Pour ce dernier cas, Nzia Joseph, député provincial de la province orientale, n'a pas caché son inquiétude.
Sur la carte ici, je suis surpris de voir Bela, qui est le poste d'état d'encadrement du territoire de Mambasa, figurer dans le territoire de Beni. Voilà des cartes pareilles risquent de semer la confusion et d'opposer les gens. Je me pose la question de savoir, est-ce que c'est parce que Abela Kilogold veut exploiter de l'or là-bas ou pas?
Cette inquiétude a immédiatement après rencontré une voie d'apaisement dans le camp des délégués venus de Beni et de Lubero. Mouindo Nzangi est député provincial du Nord Kivu.
Il y a parfois sur les lettres de cartes qui circulent où on met une partie de la ville de Goma sur le Rwanda. Et c'est des gens qui font ça pour essayer de diviser les gens. Et je crois que tout document qui n'a pas un cachet officiel, on doit le considérer comme un tract. Les limites de nos provinces existent et nous avons l'avantage de ne pas avoir de problème aujourd'hui des limites. Donc il ne faut pas que les gens fassent des cartes pour nous opposer.
Ce mardi, jusqu'à 18h local encore, les résolutions finales de la rencontre étaient encore attendues.
L'entretien de ce soir.
Place à l'invité de l'économie aujourd'hui, Bob Bondé. Vous êtes responsable de Diablon, un laboratoire qui nettoie le diamant. Il a été inauguré à Kinshasa depuis 5 jours et c'est quand même une première dans la sous-région. Mais Bob Bondé, aidez-nous d'abord à comprendre l'importance de ce labo.
Merci pour votre invitation. Et effectivement, dans le cadre de cette relance, notre projet a pour but de redynamiser le secteur du diamant tout en apportant une plus-value sur le diamant qui sont commercialisés dans notre pays afin de permettre à chaque intervenant et diamantaire d'avoir une juste valeur et de pas être lésé sur sa marchandise. Afin de lui donner sa vraie nature, donc sa vraie couleur, pour ainsi dire, sa vraie valeur.
Sa vraie valeur, alors comment vous allez calculer cette valeur-là?
Ben, nous ne la calculons pas. C'est une valeur qui est effective, c'est une valeur qui est connue. Que les diamants s'évaluent sur 4 critères, c'est sur sa couleur, sa clarté, sa pureté, ainsi que son poids.
Je prends un exemple, je suis un créseur artisanal dans le Kasaï, j'ai eu mon diamant. Si je l'amène chez vous, je gagne quoi?
Ben, ce que vous gagnez en amenant votre marchandise chez nous, c'est une plus-value. En reprenant votre marchandise de chez nous, vous la reprenez avec une plus-value, sa vraie nature. On ne pourra pas vous dire que votre pierre clivée, votre pierre brune l'a sous-évaluée juste pour le plaisir, alors que la réalité est que la plus belle pierre se cache derrière.
Alors, peut-on dire que votre idée est partie du fait que on essaie de dribbler un peu les créseurs, les négociants, les détenteurs de comptoirs quand ils vont vendre à l'extérieur?
Enfin, dribbler ou léser, c'est peut-être des mots qui ne sont pas appropriés, mais la réalité est que l'écart de prix entre les pays producteurs de diamants et les pays consommateurs de diamants est devenu insoutenable. Et la crise économique mondiale actuelle n'a fait que mettre au grand jour ces différentiels qui, aujourd'hui, nous a donné l'idée d'implanter ces projets ici.
En quoi ce sera différent du CSC, le Centre d'expertise, d'évaluation et de certification de matières premières?
En aucun cas, nous ne pouvons être concurrentiels ou aller dans l'encontre du CEC. Bien au contraire, nous devons travailler main dans la main avec le CEC, chacun faisant son travail. Le CEC consiste à expertiser et à évaluer le diamant. Nous consistons à lui donner sa vraie nature pour que le CEC et le propriétaire de la marchandise ne soient pas lésés ni que la marchandise soit sous-évaluée.
Est-ce que vous avez l'intention d'acheter aussi le diamant que vous aurez évalué?
Nous n'avons pas entrepris les démarches dans ce sens. Nous n'avons pas entrepris les démarches de demande de licence d'achat. Nous ne sommes qu'une structure de services qui est rendue aux opérateurs du domaine du secteur du diamant.
Et par hasard, si des creuseurs ou des diamantaires de négociants qui arrivent vous demandent d'acheter finalement?
Ce serait pas chez nous qu'il faudrait s'adresser à ce moment-là, puisque ce n'est pas notre objet social.
Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation des Echos d'économie.
C'est moi qui vous remercie.
Bob Bondé, je rappelle que vous êtes patron, moi je vais vous appeler comme ça, patron de Diablan. C'est un laboratoire de nettoyage de diamants. Merci beaucoup, c'est avec vous donc que nous terminons cette émission réalisée par Berry Luchaka, Daniel Tambinzoni, Jocelyne Moussaou. Bonne soirée et à la prochaine.